entre le dieu et le diable, il y a autre chose, la connaissance que Mozart avait peut-être de son propre génie, la certitude de son génie, l'orgueilleuse certitude qu'il en avait, ne l'empêche pas d'être très lucide sur les jeux de l'amour. Et c'est peut-être le sens de l'opéra Così fan tutte, 1790, dont voici un extrait avec la voix d'Elisabeth Schwarzkopf, dont vous parliez, Philippe Sellers.
Magnifique, merci.
Que vergogna, sur France Culture, les chemins de la philosophie, la voix d'Elisabeth Schwarzkopf, qui chante Despina. Così fan tutte, Philippe Sellers, c'est l'un de vos opéras préférés de Mozart. Pourquoi et pourquoi vous dites-vous que c'est une leçon de lucidité sur l'amour?
Parce que Mozart veut prouver quelque chose à travers le personnage essentiel qui est Antonio, n'est-ce pas? Prouver quelque chose assez naïf. Que sont les bons hommes qui sont amoureux des femmes, semble-t-il. Ils n'arrêtent pas de crier leur amour et de penser que les femmes sont fidèles. Mmh. Ils sont d'une telle naïveté, d'une telle crédulité, d'une telle infantilité que Antonio veut leur donner une leçon de philosophie. Alors voilà, vous avez de femmes que vous adorez, et d'ailleurs elles vous adorent sûrement. D'ailleurs quand on les voit chanter, admirable Schwarzkopf, Fiordili, Gidorabelle, là mon Dieu, elles ont les portraits sur elles de leur amant. Voilà, elles sont en plein amour, donc la fidélité doit être totale. Entre les... Alors, la leçon de philosophie consiste à dire aux naïfs, bons hommes, qui sont toujours en deçà de la main et de la ruse féminine, et de la... Voilà. Così fan tutte. Je vais vous démontrer quelque chose. Et donc, à ce moment-là, les amoureux se déguisent et vont faire une cour ardente à ces femmes fidèles. Alors, vont-elles trébucher? Elles hésitent.
Parce que le but est de montrer que la fidélité des femmes n'existe pas, de la part d'Alfonso.
Elle existe, mais elle est fragile. C'est-à-dire qu'il suffit d'employer les moyens qu'il faut. Bon, donc non, des moyens rusés, pas des prédateurs, il s'agit pas de les violer comme on est en plein MeToo. On devrait interdire à la fois Don Giovanni de Mozart et Così fan tutte. D'ailleurs, comme on pense interdire ou réécrire Carmen de Bizet, vous savez tout ça.
Même si Don Giovanni se fait quand même punir à la fin, voilà. Donc en tout cas, c'est une célébration du comportement de Don Giovanni.
Oui, d'accord. Mais enfin, voilà. Donc,
donc les deux jeunes femmes se déguisent.
Elles vont céder, on va le démontrer, voilà. Donc les couples s'échangent, n'est-ce pas, hein, et après ça, on rétablit l'ordre et on bénit tout ça de façon qui consiste à dire c'est la fin de la leçon de philosophie. Ce qui est très étonnant, c'est un opéra absolument splendide que Mozart écrit à la fin de sa vie, 1790. Là, il est très mal, il est plutôt malade, il a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Il joue au jeu, etc. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il, par exemple, l'invitation qu'il fait à Joseph Haydn de venir chez lui le lendemain, il y aura une répétition dans mon appartement de Così fan tutte. Et cher ami, pourriez-vous être présent? L'amitié entre ces deux grands génies est absolument bouleversante. Ça n'existe pratiquement dans aucun autre domaine. Haydn, lorsqu'on lui demandait, lorsqu'il était à Londres, mais pourquoi n'écrivez-vous pas de quintettes? Oh, dit non, c'est après la mort de Mozart. Les quintettes, c'est Mozart. Moi, c'est les quatuors. Et en effet, les quatuors de Haydn sont des merveilles. Et vous savez comment Mozart appelait Haydn et en lui dédiant ses propres quatuors, n'est-ce pas, papa, n'est-ce pas, c'est le père. C'est une relation d'amitié entre père et fils, Haydn et Mozart. C'est unique dans l'histoire de l'art.
Mozart accordait beaucoup d'importance à son amitié avec Haydn, mais aussi à l'amour et pas que dans l'opéra, puisque Così fan tutte est une mise en scène de cette mise à l'épreuve de l'amour dans sa propre vie. Et ça, vous revenez beaucoup sur des considérations biographiques dans votre livre, Philippe Solers, hein, il y a Mozart et son amour pour cette Constance, cette femme qu'il adore, à qui il écrit des lettres magnifiques dont il ne peut pas se passer, mais avec qui il a une relation finalement très tumultueuse.
Stanzi, c'est ainsi qu'il l'appelle. Chère et adorable petite femme, comme c'est, et elle l'appelle Wolfi, c'est le diminutif de Wolfgang. Donc il aime beaucoup sa petite femme, ce qui ne doit pas vous cacher qu'il a eu par ailleurs une vie peut-être assez dissolue, qui lui a donné une inspiration précise. Rappelez-vous le film de Forman, où il y a cette scène magnifique, Constance n'est pas là. Elle est au zoo, enfin elle est peut-être infidèle, on a beaucoup romancé
oui,
ça.
Elle-même n'était pas non plus un modèle de fidélité.
Oui, mais enfin bon, une chère et excellente petite femme. Voilà.
C'est ainsi qu'il l'appelait.
Voilà, et alors il rentre, il neige beaucoup, et il rentre le matin très tôt, après une nuit de fête. La mère de Constance est là, sa belle-mère, elle est là, elle l'attend dans l'appartement. Et elle commence à lui faire une scène. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça.
Stanzi!
C'est moi qui ai fait ça. Je l'ai fait partir et j'en suis fière. Quitte la maison immédiatement. Fiche le camp, Constance, et emmène l'enfant. Je te paye tout. Va dans une ville d'eau et refais-toi une santé. J'ai reçu un choc. Un choc épouvantable. En voyant Constance, je n'en revenais pas. Ma fille, la pauvre, dans cet état. Vous êtes un monstre. Personne n'existe sauf vous, n'est-ce pas? Vous et votre musique. Oh, je l'avais prévenu. Épouse un homme, un vrai, n'épouse pas un enfant. Si tu te maries avec lui, tu n'auras pas un pot pour pisser. Espèce de sale égoïste. Un égoïste, voilà ce que vous êtes. Un égoïste, voilà tout. Vous m'entendez?
Thank you.